Bien, alors j'aimerais que nous voyons ensemble un passage d'un Hébreux 12. Et on va voir les deux premiers versets. Et on va commencer en les lisant. Hébreux 12, 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. On s'arrêtait en fait déjà à ce verset-là, le premier verset. La semaine dernière, dimanche dernier, je parlais de transmission. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres. Et on a vu entre autres comment cette transmission était une mission, mais était liée au fait de souffrir avec Christ. C'est indissociable. Prends sur toi les souffrances du soldat de Christ. On l'a entendu encore dans le témoignage que Pascal nous a partagé. Ça prend des formes diverses. Des fois, c'est une persécution. Des fois, c'est des choses différentes. Ça peut être aussi l'épreuve de la maladie ou ces choses-là. Mais on peut rendre un témoignage à Jésus-Christ, quelles que soient nos situations. Mais notre témoignage va toujours avoir un prix à payer, ce qui donne son poids en même temps. Alors attention, toujours bien se rappeler, ce prix, c'est pas pour que Dieu nous aime, c'est pas pour que Dieu nous pardonne, tout ça c'est fait, c'est réglé, c'est pas pour qu'il soit content, mais c'est parce que nous sommes sur terre, dans un monde qui a été touché par le péché, nos vies aussi le sont, et donc poursuivre Jésus-Christ, ça coûte toujours quelque chose. Mais il faut bien se rappeler que c'est pas des souffrances pour mériter, c'est pas des souffrances pour expier, c'est pas des souffrances pour nous attirer les faveurs de Dieu, c'est simplement que Dieu nous confie quelque chose et je dois pas y renoncer parce que ça va être difficile. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Là, l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit à des gens qui, eux, passent par des persécutions violentes. Ils sont coupés en morceaux, jetés à manger aux lions, brûlés vifs dans des jardins, etc., etc. Ils perdent toutes leurs possessions matérielles. Donc on ne parle pas ici de petites épreuves superficielles. Et pour les encourager, l'auteur de l'épître aux Hébreux vient de leur citer dans le chapitre 11, de leur dépeindre cette galerie des héros de la foi. Tous ceux qui ont fait ceci et cela et le reste, etc. Et puis il les décrit. Et Moïse, et Abraham, et David, et Barak, et Gédéon, et tous les autres, qui étaient des gens faibles comme nous, mais qui, par la foi, ont fait ceci et cela, ont affronté des gens, ont délivré des royaumes, et puis ben, beaucoup sont morts dans les difficultés, mais par la foi, ils ont fait ça. Et après avoir décrit cette grande nuée de témoins qui sont tous les héros de l'Ancien Testament, qui ont marché par la foi, il continue en disant, « C'est pourquoi nous aussi, nous aussi. » C'est tout simple, mais c'est précis en même temps. Nous aussi, pas juste les autres. Et pour nous, je crois que c'est important parce qu'on peut dire, oui, bon, souffrir pour Christ. Ben, voilà, il y a en Afghanistan, ils sont persécutés, ou en Iran, ou peut-être encore à Cuba, ou peut-être à un tel endroit, ou dans d'autres endroits parce qu'ils meurent de faim, ou etc. Mais nous, ici en Suisse, non, nous aussi. Ça exclut personne, et au contraire, ça rassemble tout le monde dans cette même situation, parce que nous sommes, nous aussi, entourés de cette nuée de témoins. C'est aussi notre héritage. Nous sommes les descendants, par la foi, de ces gens-là, d'Abraham et de David et de tous les autres, puisque nous faisons partie du peuple de Dieu, qui est le peuple de ceux qui sont rachetés par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, rappelez-vous, témoins, martyr, témoin, c'est le même mot, parce que le témoignage de Christ nous amène forcément à vivre de l'opposition. Je profite pour rappeler que samedi qui arrive, là, on va avoir encore notre journée passerelle, notre journée de formation pour l'évangélisation. Et le thème pour cette journée-là, dans la partie de préparation du matin, c'est justement le combat spirituel. Parce que si on veut suivre Jésus-Christ, peu importe comment se manifeste l'action de le suivre, il va y avoir de l'opposition. Et puis c'est ce qu'on va voir dans ce passage, et je dirais, c'est déjà dès maintenant, j'aimerais souligner le fait que c'est pas une option, c'est pas un choix. Moi j'ai jamais vécu dans un pays en guerre, j'ai jamais vécu de guerre non plus, Dieu m'en a gardé, et je m'en plains pas. Mais les gens qui naissent dans un pays en guerre, ou qui se retrouvent dans un pays en guerre, Je connais personne qui ait choisi, qui l'ait voulu, qui aimait ça. À un moment, on y est. Puis on peut dire, ouais, mais ça me plaît pas, je veux pas, j'aimerais pas. On y est dedans. Pour nous, en tant que croyants, c'est pas une question, j'ai envie d'être dans le conflit spirituel ou pas, là je le sens pas. Non, mais en ce moment, je sens vraiment pas le conflit spirituel, là, je préfère les vacances. On n'a pas le choix. On est né dedans, il n'y a pas un endroit sur la planète où c'est pas comme ça. C'est comme ça depuis que l'être humain est sur Terre. Donc, il faut faire face à cette réalité. De faire l'autruche va pas changer le fait que j'y suis. Quelqu'un peut dire, quand il vit dans un pays en guerre, « Ah ben moi je décide, il n'y a pas de guerre ici. » Puis ben voilà, il sort et puis il y a des bombes qui tombent. Non, non, c'est pas vrai, c'est une illusion. D'abord ça va être bizarre et puis sa vie risque d'être courte. Et puis il risque de mettre d'autres personnes en danger. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut intégrer. Ça nous plaît pas, c'est agréable ou pas. C'est pas le message que je préfère partager. C'est une réalité, c'est un fait. Et je dois faire avec. Donc, nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous. Se débarrasser, littéralement, déposer au loin. C'est un mot composé qui veut dire prendre quelque chose pour aller la porter loin de moi et le poser. Et puis je reviens. Ce mot est important parce que il nous parle d'un acte réfléchi. Tout petit peu plus, je me prenne pas les pieds. Hein? Il y a des choses qui se font sans qu'on y réfléchisse. Même quand je dors, mon cœur bat. Même quand je dors, je respire. Hein? J'espère. Non, normalement, si je suis là, etc. Il y a plein de fonctions vitales dans notre organisme qui se passent, qu'on y réfléchisse ou non. Se débarrasser, le sens de ce mot-là, ça va pas se faire sans que je le décide, ça va pas se faire sans que j'y réfléchisse, ça va pas se faire sans que j'ai voulu le faire. Débarrassons-nous, et on va voir de quoi il faut se débarrasser, mais ça veut dire que je dois m'arrêter. Et puis, je dois prendre les choses qu'il faut pas et les mettre loin de moi. Débarrassons-nous de tout fardeau. Le mot pour fardeau ici, c'est littéralement, ça voulait dire ce qui est saillant, ce qui dépasse, ce qui fait une bosse. Et après, c'est devenu ce qui est lourd, ce qui fait du poids. Mais c'est ce qui gêne, ce qui est en plus. Et c'est intéressant de voir que dans l'ordre qui est donné ici, et c'est pas par hasard, bien sûr, il est dit de nous débarrasser du fardeau avant de nous débarrasser du péché. On pourrait penser que la première chose à laisser tomber dans nos vies, c'est le péché. C'est vrai qu'il faut se laisser tomber le péché, hein. Mais c'est pas par hasard s'il y a cet ordre-là, et au début ça m'a un petit peu interpellé. En fait, si je me débarrasse pas des fardeaux, et on va voir ce que ça représente, je vais même pas avoir la possibilité de me débarrasser de mes péchés. Les fardeaux, c'est pas des choses qui sont mauvaises, c'est des choses qui m'encombrent. Pour me débarrasser de mes péchés, je dois aller à Christ, les lui apporter, les confesser, et immédiatement j'en suis débarrassé. D'accord ? Donc on pourrait dire c'est très rapide, c'est très simple. Pourquoi ne pas commencer par ça ? Mais la raison pour laquelle je le fais pas, de confesser mes péchés alors que je tombe dedans, c'est parce que je suis tellement occupé avec mes fardeaux que j'ai même pas le temps de penser au reste. Donc les fardeaux, c'est quoi ? C'est toutes les choses qui sont pas des péchés, mais qui encombrent tellement ma vie que je vis sans réfléchir, sans penser, sans intention, sans but, sans savoir où je vis. Hein, pour ceux qui, la plupart d'entre vous qui me connaissez bien, ce que j'appelle la vie du concombre. Il est là, il existe. Il se pose pas de questions. Il reçoit l'eau, le soleil, il pousse, un jour on le coupe, il est plus là. Une superbe vie de concombre. Il a pas d'intention, hein. Le concombre se réveille pas le matin en disant, bon voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont mes priorités? Il se dit pas en début d'année, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais pas faire? Il s'arrête pas régulièrement pour dire, qu'est-ce qu'il y a en trop dans ma vie et qui me gêne? Non. Il est là, il est vivant, c'est vrai, le concombre est vivant, et il existe. Il a une vie, hein. Mais c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Et si on passe pas par la première étape, il y aura pas la deuxième. On va même pas s'apercevoir qu'on vit dans le péché. Donc débarrassons-nous de tout ce qui est en plus. Ce passage, c'est un appel à élaguer, à tailler. Mais à tailler des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Il faut se rappeler que tous ces deux versets-là font appel à une image qui était très connue à l'époque de où ça a été écrit, les Jeux Olympiques, hein, avec les athlètes qui rentraient pour courir une course. C'est de ça qu'il est parlé ici. Et donc, ils avaient leur échauffement, leur massage, etc. Quand ils étaient prêts, comme nous, ben, ils mettaient leur toge Adidas ou Nike, hein, pour rester chaud. Et quand ils arrivaient sur la piste pour courir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se débarrassaient, parce qu'à cette époque-là, ils couraient tout nus, hein, c'était un peu spécial, mais c'était comme ça. Et parce que courir avec une toge, ça va pas. Hein. Celui qui oubliait d'enlever tout ce qu'il avait autour de lui, risquait pas de gagner la course. Hein. Essayez de courir avec une robe qui vous descend jusqu'aux pieds contre des gens qui n'en ont pas. Même si vous avez le même niveau, vous allez perdre. Vous prenez les pieds dedans, vous allez manger le sable, etc. Donc, ils se débarrassaient de tout ce qui était superflu pour se retrouver dans le plus simple appareil. Rien qui gêne. Hein. Et c'est pas moi qui choisis cette image, elle est là. Mais elle nous parle. Parce que souvent, ben justement, on est plus concerné dans nos vies, on se dit, bon, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, mais sur le reste, ben voilà, ben je fais rien de mal. Hein. Prendre mon temps pour moi, c'est pas mal, et puis faire ça, c'est pas mal, et puis faire ça, c'est pas mal. Et effectivement, ces choses-là sont bonnes. Mais je dois voir en quoi elles m'empêchent de courir la course que Christ a mis devant moi. Parce que sans ça, je ne vais même pas arriver à m'occuper de la question d'après plus forte. Donc, débarrassez-vous de tout fardeau et du péché. Et le mot pour péché est intéressant parce que vous savez, c'est un de ces mots qui sont construits avec un a privatif. Et nous, souvent, on a l'impression que le péché, c'est juste faire le mal. Le péché, c'est voler, mentir, tuer, tromper sa femme. C'est vrai que le péché, c'est ça. Je dirais ça, c'est la partie facile et morale du péché qu'on voit facilement. Mais le péché, autant dans le terme hébreu que grec, c'est ne pas atteindre le but. Hein. Ne pas faire ce qu'on attend de moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de réflexion, parce que je peux avoir une vie morale sans trop réfléchir. Si j'ai été bien éduqué, et surtout ici, dans un pays quand même assez moral, il y a une bonne éducation, il y a des restes de christianisme, on n'est pas né avec une culture tordue, etc. Donc, je sais ce qui est bien et pas bien. Hein. Je vole pas, je mens pas, je tue pas, je triche pas, j'arrive à l'heure, je mets pas les coudes sur la table, je mets pas les doigts dans le nez, je dis merci monsieur, je dis bonjour au voisin. Si j'ai fait ça, je pêche pas. Évidemment que ça, il faut le faire. C'est du savoir-vivre. J'ai pas besoin d'être croyant pour faire ça. Mais le péché, c'est ne pas prendre le temps d'écouter la voix de Dieu et donc ne pas faire ce qu'il attend de moi. Et on va être surpris lorsque nos vies vont être confrontées à ce que Dieu avait prévu pour nous le jour où on va le rencontrer. Hein. Pas question ici de savoir si on va à l'enfer ou pas, mais Dieu va nous montrer ce qu'il avait prévu pour nos vies. Et on va se dire, ah mince, il y avait tout ça. Ben oui, j'ai fait que ça. Ben oui, mais j'ai rien fait de mal. Ah non, tu n'as rien fait de mal. Mais il y a plein de choses bien que tu devais faire. Et là, je ne parle pas de bien en termes de morale, encore une fois. Hein. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas toute cette préparation, ben, je peux passer ma vie en ayant l'impression que je ne fais rien de mal. Bah, je vais au culte le dimanche matin, je lis ma Bible 10 minutes le matin, je fais ma prière avant de manger, je suis gentil avec mes voisins, je vole pas, ma vie est un bon témoignage. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, j'ai laissé ma vie être encombrée par les fardeaux, et du coup, je vivais dans le péché sans même le savoir, pas parce que je faisais le mal, parce que j'atteignais pas le but que Dieu avait pour moi. Personne ne peut vous dire ce que Dieu attend de vous, ça c'est entre vous et lui. Mais par contre, comment vous pouvez le savoir si vous ne le cherchez pas, si vous ne vous posez pas la question, si vous ne vous arrêtez pas, et quand je dis vous, je me vous vois, hein, je suis avec. Si vous êtes comme moi, je suis toujours effaré du nombre de fois, parce que ce que je vous dis là, vous le savez aussi bien que moi, je le sais, je l'ai prêché 10 millions de fois. Et combien de fois je me surprends à me dire « Zut, depuis combien de temps je vis en pilotage automatique ?» Je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Et pourtant, je suis pasteur. Hein. Donc je me lève, je fais des visites, je prie, je viens, je prépare le culte. un pilotage automatique. Je le fais peut-être correctement, je fais rien de mal, je suis dans le bien moral. Mais depuis combien de temps j'ai pas pris le temps d'élaguer dans ma vie tout ce qui est pas mauvais, mais qui fait que j'ai plus le temps de m'arrêter et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Évidemment que je me pose pas cette question avant d'aller travailler ou avant d'amener ma fille à l'école. Il y a des choses qu'on peut pas bouger. Mais il y a énormément d'autres choses qui dépendent de moi. Parce que ce que je mets en premier dans ma vie, c'est ce qui prend la place. Hein. Avec cette idée que si Dieu veut que je fasse quelque chose, à un moment j'aurai le temps pour le faire. C'est une blague. Hein. On le sait tous. Quand quelque chose vous tient à cœur, est-ce qu'on fait comme ça? Ou quand quelque chose doit être fait? Hein. Là, je dois déménager, de nouveau, neuf mois après. Ça oriente ma vie d'une certaine façon. J'ai un moment de libre le samedi après-midi, j'aimerais aller marcher ou lire, mais non. Je dois aller faire des cartons. Je dois aller repeindre, je dois couper l'herbe. Pourquoi? Parce que le 29, je dois déménager. Mais si je me dis, bah écoutez, déménagera quand ça sera prêt. Hein. Quand les cartons seront pleins, quand je vais continuer de vivre, je risque de déménager dans longtemps, très longtemps. Hein. Donc on fait pas ça avec les choses qui nous paraissent importantes, mais on fait ça avec notre vie avec Dieu. Ouais, quand je serai en vacances, là je prendrai du temps pour prier. Hein. Quand j'aurai fini mes études, quand je serai à la retraite. Demandez à tous les retraités comme on a du temps quand on est à la retraite. Hein. C'est pire qu'avant. Vous pouvez même plus vous cacher au travail pour réfléchir. Non. Donc, débarrassons-nous, encore une fois, prendre et porter loin de tous les fardeaux. Et donc, les fardeaux, là, c'est pas les épreuves dont il est parlé là. Paradoxalement, les épreuves, c'est la seule chose qui nous ramène à Dieu. C'est bien les épreuves. J'aime pas les épreuves, j'ai horreur des épreuves. Mais c'est bien les épreuves. Hein? Les épreuves, c'est l'équivalent dans la vie spirituelle de la pesanteur sur Terre. Imaginez qu'on vive sur la Lune, au-delà du fait qu'on ne pourrait pas respirer. Hein? Tout est compliqué. Déjà, là, je ne serais pas en train de vous parler ici, je serais collé au plafond. Pourquoi je peux parler ici? C'est pas juste parce que je suis lourd, c'est parce qu'il y a l'apesanteur. L'apesanteur, c'est ce qui nous fatigue, hein. C'est ce qui fait qu'on a mal au dos, c'est ce qui fait que tout pèse, ce qui fait que tout tombe par terre, c'est ce qui fait que rien est facile. Sans ça, on pourrait pas marcher. Il faudrait qu'on rajoute du poids, mettre des semelles en plomb. Donc les épreuves, malheureusement, et on les déteste, mais elles nous ramènent à Dieu, toujours. Elles nous tirent à lui. C'est comme ça. C'est les seuls moments où on réfléchit. Hein. Un deuil arrive, une maladie, une épreuve, une difficulté, je perds mon travail, on est méchant avec moi, on me regarde de travers, je me suis disputé avec quelqu'un, et là tout d'un coup, Seigneur, aide-moi. Dieu dit, tiens, tu t'es rappelé que j'étais là. Mais ce qu'il nous demandait ici, c'est de courir une course, c'est d'aller quelque part, c'est de viser, c'est d'avoir une vie intentionnelle, une vie où je veux arriver là, et je vais y arriver ou mourir en y arrivant. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je sois en route dans cette direction-là. Du péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés, dans ma traduction. En fait, c'est un seul mot en grec, mais qui est construit de plusieurs mots et qui est très très bien traduit par cette phrase. Hein, qui nous enveloppe si facilement de tous les côtés. Et là aussi, c'était l'image de ces grands vêtements qui vont s'entortiller autour de nous si on essaie de travailler avec, sans les avoir attachés, ou dans ce cas-là, encore mieux, enlevés. Hein. Et autant les préoccupations naturelles que le péché, ça revient toujours. Vous avez beau les porter loin, 2 heures après, ils sont de nouveau là. C'est comme des chiens fidèles, ils reviennent toujours à la maison. Vous pouvez essayer de les perdre, de les semer, de les oublier. Eux, ils vous connaissent. Ils reviennent toujours. Et c'est pour ça que c'est pas une expérience qui se fait une fois dans notre vie. Hein. On s'approche de Dieu, Seigneur, là, je te donne toute ma vie, prends tout. Vous savez, ces grands moments là, hein, où on lève les mains et puis ah, j'ai tout donné à Christ. Non, c'est bien de le faire. Il faut savoir que dans un quart d'heure, il faudra le refaire. Demain matin, ou dans 1/2 heure, ou dans 1 heure. C'est sans arrêt. Hein. C'est pour ça que le temps dans lequel c'est écrit dans le texte nous parle d'une action qui est sans arrêt en train d'être répétée. C'est comme la respiration. Hein. tout le temps. Ça rentre, ça sort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et courons avec persévérance ou endurance l'épreuve qui nous est proposée. Courir, hein. C'est pas juste marcher, c'est courir. Pourquoi ? Bon, c'est peut-être une course de fond, mais parce que la course, vous savez, la définition de la course, quand est-ce qu'on passe de la marche à la course ? Vous savez, ça, vous êtes tous des professionnels dans ce domaine. Mathieu. Quand les deux pieds touchent plus le sol en même temps. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui marchent très très vite, il y a des courses de marcheurs, là, c'est impressionnant à voir, hein, je ne sais pas comment. Mais ils n'ont pas le droit, s'il y a un moment, il n'y a pas les deux pieds au sol, ils sont disqualifiés. Alors que la course, c'est que justement, c'est le contraire, la course, c'est que j'ai jamais les deux pieds en même temps au sol. Et donc pour ça, ben, je suis déséquilibré. Et pour pas tomber quand on court, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre un autre pied devant. Quand je marche, je peux m'arrêter. Je marche, je peux ralentir. Et je fais une pause. La pause peut durer quelques années. Et je fais un pas. Encore, hein ? Et si je cours ? Est-ce que vous pouvez vous arrêter au milieu d'une course nette comme ça ? Non, je dois d'abord marcher et puis ralentir. Sinon, le nez par terre. Donc la course, elle implique d'être dans un processus qui se répète. Et elle veut dire aussi que je suis en déséquilibre. J'ai pas mes deux appuis, j'en ai qu'un. On n'aime pas ça. On aime bien avoir les deux, et si on peut, quatre même. C'est cinq éventuellement. On aime être en sécurité. Et Dieu nous dit, suis-moi, cours, viens. Accepte d'être déséquilibré dans ta vie naturelle pour me faire confiance. On va pas tomber parce que je vais te donner la main et je vais courir avec toi, en fait. Mais on va courir. Et on va être toujours avec cette idée que, ah, je vais pas y aller. Hop, il y a encore l'autre pied qui se met. Ah, oh, il y a encore l'autre pied qui se met. Ah. Et comme ça, j'arrive au bout. Puis si je tombe, je tombe. Je me relève. C'est pas grave. Il y a les airbags qui sont prévus. Dans l'épreuve qui nous est proposée, qui est placée devant nous, et là l'image c'est justement cette piste qui a été dessinée, et puis elle est là. Donc c'est aussi un élément qui est important parce que Dieu a préparé la course. C'est pas à nous de l'inventer. C'est pas à nous de prévoir les ravitaillements, où elle va passer, de faire le planning, de trouver la carte, d'installer. Ça c'est son affaire à lui. Chacun son boulot, c'est déjà pas mal, hein. Faisons notre part, lui fait la sienne, très bien. Mais c'est important de savoir que pour chacun d'entre nous, Dieu a prévu une course, hein, une piste, un chemin sur lequel il attend que nous courions. Et puis c'est pour tous, c'est nous aussi. Et on va arriver au verset suivant. Mais je m'aperçois que... Voilà, il est ici, j'avais mélangé. Je vous le lis, verset 2. Gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et là, le verbe et le temps qui est utilisé dans le texte original est très très beau, très riche, très intéressant, parce que pour le traduire, il faut faire une longue phrase, et ça ferait à peu près quelque chose comme ça, hein. Détournant continuellement les yeux de toute autre chose pour les reporter sur Jésus-Christ seul. C'est bien le grec, hein. Ils disent tout ça dans un mot. Mais détournant continuellement nos yeux de toutes les autres choses pour les ramener toujours sur Christ. C'est ça, regarder à Christ. Et c'est pour ça que c'est un lien avec ce qu'on a vu avant. En fait, c'est ce qui nous permet de vivre la première partie. Sinon, c'est pas possible, hein. Comment je peux sans arrêt élaguer ma vie, laisser de côté, juste par ascétisme? Ouais, il y a une fois tous les 1000 ans, il y en a un qui est capable, là, un de ces gens un peu fous là, qui ont une discipline de fer, qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Mais pour le commun des mortels, on peut pas. Comment je vais le vivre ? Ben, c'est pas juste que je dois laisser des choses, c'est que je dois comprendre que je dois laisser des choses pour reporter mes regards sur Christ. Et le début de cette réflexion pour moi, c'était lundi. J'allais chercher ma fille à l'école. Et puis, quand je vais à l'école, ben, y a les parents qui attendent, il y a des gens, etc. Et je suis toujours impressionné par la façon dont les gens ont peur du regard. Il y a quelques personnes hein, que je connais, quoi, qui, quand j'arrive, ben, ils me regardent arriver, puis ils me voient, puis on se regarde dans les yeux, puis on se dit bonjour, faites dans les yeux. Pas comme ça, mais on se voit. Mais il y a plein de gens, mais on dirait que c'est, ils ont dû passer des années à pratiquer ce sport. Ils font comme s'ils vous avaient pas vu, alors que vous savez très bien qu'ils vous ont vu. Vous savez, cette façon de, je sais pas comment faire, mais d'éviter que les regards se croisent. C'est pas de la méchanceté, hein. C'est pour pas avoir à parler, c'est pour pas être désécurisé, c'est pour, on sait pas quoi faire. Si on regarde l'autre et qu'on lui dit comment ça va et qu'il nous dit ça va pas, je préfère éviter le regard. Et ça m'a tellement frappé pendant un jour ou deux. C'est pas que je jouais, mais je faisais attention à ça et de voir, c'est impressionnant. C'est devenu même pour les gens une façon de... Je peux traverser la salle là, mais je regarde de partout, mais je ne vois personne. Et puis voilà, il y a une ou deux personnes que je vois, mais les autres, comme ça là, hein, voilà, là, ok, puis je repars. J'ai vu personne. Je ne veux pas rencontrer les regards. Et je réfléchissais et je me disais, c'est triste. C'est violent, c'est dur, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, c'est triste, hein, c'est comme ça que tu fais avec moi la plupart du temps. Ah, je fais mes choses pour Dieu, je fais mon boulot de chrétien, je fais, mais j'évite de rencontrer le regard de Dieu. C'est tellement plus simple de faire ce qu'on a à faire. Seigneur, j'ai bossé 12 heures pour toi, maintenant laisse-moi regarder la télé, ou faire ci, ou faire ça. Dieu dit, mais je t'ai pas demandé de travailler 12 heures pour moi. J'aurais juste voulu rencontrer ton regard. Et que tu rencontres le mien. Et peut-être qu'on s'assoit à boire un café tous les deux. Et puis qu'on parle de ça ou d'autre chose. Mais c'est beaucoup plus difficile. La loi est beaucoup plus simple que la liberté. Parce que la loi me dit tu fais pas, tu fais comme si, tu fais comme ça. Voilà. J'ai ma liste, je fais pas. Quand j'ai fait, je suis tranquille. Si j'ai pas fait, je suis coupable, je me sens coupable, j'expie, je recommence. C'est simple à gérer. La liberté, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je sais pas, mais je dois rencontrer ton regard. Dans ton regard, je vois plein de choses que j'ai pas envie de voir. C'est trop compliqué. Ça soulève trop de choses. Non. Juste envoie-moi une liste de courses, puis je les ferai pour toi, Seigneur. Jésus dit non. Mets tout ça de côté et détourne tes regards de tous les autres trucs là pour les porter sur moi, parce que moi, j'ai les yeux tournés vers toi. J'attends ton regard. Dans un des cours à la préparation au mariage que je fais en ce moment, il y a un sujet qu'on aborde et je disais la forme de maltraitance la plus répandue et la plus violente dans un couple, j'exclus la violence physique qui est bien sûr inexcusable, hein, mais c'est justement l'indifférence. On vit côte à côte, on dort côte à côte, on mange côte à côte, mais on ne se voit plus. Ça fait mal, c'est violent. Bon, quand c'est les deux qui le vivent, j'allais dire, parce que les deux le veulent comme ça, c'est triste, mais quand il y en a un qui le subit, c'est une forme de maltraitance violente. Je vois pas l'autre. Il me fait à manger, mais je le vois pas. Il rentre du travail, mais je le vois pas. Ah, on est dans la même maison, dans le même lit, dans la même... Mais on se voit plus. On se regarde plus. C'est horrible. Mais combien de faits? Pour moi, la question, c'est quand est-ce que je vis pas comme ça avec Dieu? C'est très rare. Très rare que j'accepte de m'arrêter et de soutenir le regard de Dieu, de le chercher, d'accepter de rencontrer son regard. Et pourtant, quand je le fais, c'est tellement bien. Hein. C'est tellement différent de ce que j'imaginais. Mais il y a tout en moi qui veut pas ça. Je préfère faire des milliers de choses, m'occuper à tout sauf ça. Pourquoi? Parce que le péché est en moi, parce que j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Hein. Et c'est pour ça que détournons nos regards des autres choses, mais pas juste pour, il faut pas que je regarde le mal, il faut pas que je pêche, il faut pas que je fasse... Non, non. Si le but, c'est pas de les porter sur Christ, alors il vaut mieux faire ce que vous avez à faire. C'est pas mal ou c'est pas grave. Parce qu'en fait, le péché ultime, c'est quoi? C'est de pas vivre les yeux dans les yeux avec Christ tout le temps. C'est ça, le péché. Si on vivait les yeux dans les yeux avec Jésus-Christ, on pêcherait plus, on serait saint sur terre. Saint dans le sens parfait. Donc le but, c'est quoi? Ben, c'est penser ma vie, organiser ma vie, remplir mes pensées pour que ce soit possible. Comment? Chacun de nous de trouver. On a peut-être besoin de discipline, on a besoin de mettre des priorités, on a besoin de réflexion, on a peut-être besoin du temps à part. Ça peut, ça, je pense, même je suis sûr, ça évolue selon les périodes de nos vies, selon nos caractères, selon les moments, selon où on est. Peu importe les moyens, mais je dois me poser la question, je dois réfléchir, je dois vouloir que cette rencontre se passe et que je laisse de côté, parce que on est en guerre, parce qu'il y a un conflit, parce qu'on a un ennemi, parce qu'il y a le péché en moi, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui font que tout va naturellement vers le mal. On n'est pas dans un monde qui va naturellement vers le bien. C'est le moment du jardinage, là, tout le monde fait son jardin. Moi, j'ai des voisins qui passent du temps dans leur jardin, ils le font beau, propre, bien, c'est super, je les vois de loin. Mais on n'a jamais vu un jardin sauvage devenir un beau jardin tout seul. Par contre, un beau jardin où par des 15 jours, vous revenez, il est envahi. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, c'est comme ça. Nos vies, c'est pareil. On les met en ordre, 2 heures après, c'est le bazar, ça a poussé tout seul. On sait pas d'où ça sort. Comment c'est possible que j'ai passé autant de temps à tout arracher, à tout nettoyer, je me tourne, il pleut, je reviens, ça a repoussé. Puis les trucs que je veux faire pousser moi, je leur donne tout le soin que je veux, la moitié pousse pas, l'autre moitié elle meurt, et encore une moitié, il y a les escargots qui les mangent, et les oiseaux, et j'arrive à sauver 2 feuilles de salade. C'est pas juste. Ben, c'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est pire pour nos natures. On est comme ça. Rien que respirer l'air dehors, j'ai la tête pleine de mauvaises pensées. Plus rien. Donc, si je prends pas la décision de vivre ma vie chrétienne pleinement, de trouver la course de Jésus-Christ qu'il a tracée pour moi, de la vivre avec lui, etc., 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 je vais pas refaire le message, ça va pas se faire. Parce que on a oublié une chose, on a tellement une compréhension fausse de l'évangile. On accepte que Christ nous a rachetés, ça, ça nous plaît quand même, on va plus en enfer, on est pardonné, etc. Et on n'a pas la logique de dire, mais si il m'a racheté, alors je suis à lui. Non, il m'a racheté, donc je peux faire ce que je veux. Non, mais il y a un truc qui va pas, là. Quand vous achetez quelque chose, c'est à vous. Non, non, il m'a racheté, il m'a libéré pour que je puisse faire ce que je veux sans lui. Ce qui est incroyable, c'est que comme il nous aime et qu'il veut, sait qu'il n'y a pas d'amour sans liberté, il nous a racheté, il nous laisse libre, et puis il dit, mon souhait, ça serait que vous me suiviez à cause de l'amour. Mais il nous oblige pas. Donc du coup, nous on s'imagine, maintenant je peux faire ce que je veux. Puis quand je lui donne 1 heure, quelle faveur. Vous vous rendez compte, dans mon emploi du temps, j'ai pris 3 heures pour Dieu cette semaine. Eh oh, il t'a racheté. Ouais, non mais ça c'est normal quand même, parce que quelqu'un d'aussi bien que moi, le laisser aller en enfer, ça aurait été un sacré gâchis. Hein. Non. Aussi bon que moi, quelle saleté, il n'y a rien de bon. Hein? Non, donc je lui appartiens, mais par contre, il ne va pas abuser de ça. Mais moi, je devrais avoir cette compréhension-là, ce n'est pas une faveur que je lui fais. Moi, j'allais droit sans lui dans le mur pour l'éternité, il me rachète, il me donne tout, et moi, je lui fais de temps en temps la faveur de lui accorder un quart d'heure, que je suis bon, Seigneur. Hein? On est comme ça, il faut le savoir, on l'accepte, on vit avec. Mais c'est pas une fatalité. Je peux me lever le matin et dire, Seigneur, je veux pas que ce soit comme ça aujourd'hui. Ça le sera peut-être, mais je veux pas. Et je veux le vivre avec toi. Et j'ai besoin de toi. Et puis 2 heures après, je m'aperçois que je suis passé à côté. Ben, c'est pas grave. On a plus de 7 fois, 77 fois la possibilité de revenir à Dieu dans une journée. Ça nous laisse de la marge. Utilisons-les. Après, il y a un joker encore, quand vous avez passé les 7 fois, 77 fois. Hein. On peut encore. Ça recommence à zéro. Donc, laissons Dieu toucher nos cœurs avec ça. Et puis, ne fuyons pas son regard. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs avec ces vérités, qu'elles nous rapprochent de toi, que ce soit pas la culpabilité qui devienne une mauvaise et fausse motivation, mais que ton regard puisse nous communiquer tout l'amour que tu as pour nous, que nous puissions comprendre le prix de ce que tu as fait en nous rachetant, afin que nous puissions prendre la décision, moment après moment, de courir la course, de te suivre, de mettre de côté, de tailler et d'élaguer, et de nous abandonner à toi pour chercher ton regard, Seigneur. Merci de le faire en nous, parce que nous n'en sommes pas capables. Mais nous te demandons de le faire, Seigneur. Nous voulons que tu le fasses. dans nos vies, et puis que tu nous aides aussi à le vivre de façon communautaire les uns avec les autres, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous environne, pour ta miséricorde, pour ta consolation, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons aussi. Amen.